Bonjour à tous, si vous allez en vacances en Occitanie cet été, tendez bien l'oreille, nous allons vous faire réentendre l'enquête que nous avions réalisée en novembre dernier sur la fusion des régions. Elle devait permettre de faire des économies, mais on va voir que c'est l'inverse qui s'est passé. Bonjour Cécile Hautefeuille.
Bonjour.
Vous allez donc nous réexpliquer pourquoi finalement tout ça coûte si cher, et puis nous réentendrons Mathieu Delahousse. Lui a récemment publié La Chambre des Coupables, c'est un livre qui montre qui sont ces apprentis djihadistes qui sont partis en Syrie ou qui sont restés en France, mais dans l'espoir de commettre des attentats.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Lorsqu'on fusionne de régions, on obtient des économies d'échelle, notamment sur les fonctions support, la logistique, la maintenance, l'informatique, les ressources humaines, les bâtiments. Donc les économies d'échelle seront au rendez-vous à moyen terme.
Voilà, celui que vous venez d'entendre, c'est André Valigny en 2014. Il est alors secrétaire d'État à la réforme territoriale et il explique qu'en diminuant le nombre des régions françaises par deux, on doit pouvoir faire des économies. Sauf que près de 4 ans après cette réforme, eh bien, on constate que non seulement on n'a pas fait d'économies avec elle, mais que quasiment partout, on a au contraire augmenté les dépenses. Et une région fait figure de vilain petit canard dans ce tableau, c'est l'Occitanie, où on est passé d'un budget de 2,4 milliards avant la fusion, à un budget de près de 3,5 milliards aujourd'hui. Alors à la cellule investigation de Radio France, eh bien on a voulu comprendre comment on en est arrivé là. Mais avant de vous raconter les choses assez hallucinantes d'ailleurs que vous avez découvertes, Cécile Hautefeuille, il faut peut-être rappeler tout simplement ce qu'est la région Occitanie.
C'est la fusion de deux régions, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, l'Occitanie, c'est près de 6 millions d'habitants dans 13 départements qui s'étendent du littoral méditerranéen au sommet de la Montagne Noire.
Et le siège de cette région, il est à Toulouse.
Oui, mais pour dédommager Montpellier, qui a perdu son statut de capitale régionale avec la fusion, il a été décidé que toutes les sessions plénières auraient lieu là-bas. Les plénières, ce sont des assemblées pendant lesquelles les élus débattent et votent les orientations budgétaires.
Et c'est là que les dépenses commencent à déraper.
Oui, parce que Montpellier a bien un hôtel de région qui a été construit il y a 30 ans. Mais si la fusion a fait baisser le nombre de régions, le nombre des élus n'a en revanche pas du tout diminué. À Montpellier, avant 2016, ils étaient 67. Et aujourd'hui, avec leurs collègues de Midi-Pyrénées, ils sont 158. Mmh. Plus possible donc de les faire rentrer dans l'hémicycle de l'hôtel de région Montpellier-Rhin.
Et comment on fait alors ?
Eh bien, 4 fois par an, on se réunit au parc des expositions en périphérie de Montpellier, sur une route qui mène à la mer. C'est là que se tient la foire de Montpellier, mais aussi parfois des meetings politiques.
Et ça coûte très cher ?
Oui, pour la seule assemblée plénière du 30 juin 2017, on a dépensé 137 170 euros. Sans compter les frais de restauration.
137 000 euros, ça paraît dingue, ça.
Oui, mais même si le parc des expositions est désormais propriété de la région, il faut l'aménager pour les assemblées plénières, explique Anne-Sophie Monestier-Charrier, conseillère régionale de l'Aveyron et élue dans le groupe de l'Union de la droite et du centre.
Tout est monté, effectivement, pour l'assemblée plénière, avec tout ce que ça entraîne, la moquette, les bureaux, la climatisation, l'éclairage. Si on prend, par exemple, sécurité incendie, pour un coût de l'ordre de 2000 euros, les aménagements spécifiques qui comprennent les jupons, les cloisons, il y en a à peu près pour 10 000 euros. On a l'éclairage, éclairage centre de conférence, groupe froid pour climatisation. On a de la climatisation pour chaque pièce qui est mise à notre disposition.
Et ça coûte combien ?
On est à 12 000 euros. Et ça encore pour une seule assemblée plénière, puisque celle du mois de juin dont je dispose de la facture, elle n'a duré que sur un jour.
Ah oui, tout ça pour une seule journée.
Oui, mais il y a pire. Selon des documents comptables que j'ai pu consulter, pour la seule assemblée plénière de juin 2017 au parc des expositions, on a facturé 5 jours de montage.
Ouais, 5 jours de montage pour une seule journée de réunion. Et c'est spécifique à Montpellier, ça ?
Apparemment, oui. J'ai contacté toutes les régions. L'Occitanie est la seule à aménager ainsi, jusqu'à la moquette, une salle pour organiser ses plénières. Toutes les autres font leurs assemblées dans des hôtels de région ou dans des locaux déjà équipés pour recevoir ce type d'assemblée.
Mais à Toulouse, il n'y aurait pas un endroit qui pourrait accueillir tout ce monde sans que ça coûte aussi cher ?
Si, l'hémicycle toulousain. Il est certes un peu petit, mais en se serrant bien, ça rentre. La preuve, les deux premières plénières se sont déroulées là-bas en 2016, juste après la fusion.
Bah pourquoi on ne l'utilise pas alors ?
Eh bien d'abord parce que siéger à Montpellier, c'était un engagement de campagne. Mais aussi parce qu'il faudrait faire quelques travaux de rénovation et d'agrandissement. À Toulouse, ça coûterait a priori 800 000 euros. Et cette somme, la présidente de la région ne veut pas l'engager à la légère.
Le président de la République a indiqué qu'il pourrait y avoir une réforme sur la baisse du nombre des élus locaux. Donc je ne vais pas engager des dépenses d'agrandissement pour que dans 3 ans, on me dise que c'est plus 158 élus régionaux, mais c'est 120, quoi. Et ça, quand je l'explique aux gens, ils le comprennent. Ils comprennent que la bonne gestion, c'est pour l'instant de louer et ce n'est certainement pas de construire et d'agrandir.
Donc pour l'instant, c'est le statu quo. Mais il n'y a pas que les plénières qui font augmenter les dépenses, Cécile.
Non, autre gaspillage dénoncé, la consultation citoyenne qu'on a organisée pour désigner le nouveau nom de la région. Rien que ça, ça a coûté 1,5 million d'euros. Oui. Mais il y a aussi d'autres dépenses, les maisons de la région par exemple, implantées sur tout le territoire. Certaines existaient déjà avant la fusion sous forme de maisons de proximité. Aujourd'hui, des maisons de la région, il y en a 11 et elles seront 14 l'année prochaine.
Mais si elles sont utiles ces maisons, en quoi c'est un problème ça ?
Eh bien le problème c'est que certains les voient comme des gadgets. Mais ce que pointe Elisabeth Pouchelon, conseillère régionale de Haute-Garonne pour l'Union de la droite et du centre, c'est que quand bien même elles seraient utiles, on en fait un peu trop avec ces maisons.
La région a décidé de mettre en place des locaux dans chaque département et même plusieurs par département pour en faire une vitrine de la politique régionale. On a par exemple l'acquisition de la maison de région à Perpignan qui va coûter 2 904 600 euros. Donc vous voyez, c'est pas quand même des petites sommes. En location de certaines, elles ne sont pas toutes encore ouvertes. On est à 731 000 et quelques euros de location annuelle de maisons de la région. Donc c'est quand même des sommes importantes. Pourquoi la région ne va pas à l'intérieur d'une autre collectivité pour promouvoir ses politiques régionales plutôt que d'avoir son propre local par volonté d'affichage ?
Donc elle préconise d'abriter ses maisons dans des locaux de mairie ou de département. Mais puisqu'on parle de territoire, Cécile, il faut aussi préciser que par la force des choses, la région elle est devenue beaucoup plus grande qu'avant. Et ça aussi, c'est un problème.
Oui, parce que qui dit territoire fusionné dit plus de déplacements. Cette région Occitanie, elle est très vaste. C'est la deuxième plus grande région de France métropolitaine. Elle est 2 fois plus grande que la Belgique.
Ce qui rend donc les déplacements plus difficiles.
Oui, que ce soit pour se rendre aux assemblées plénières à Montpellier, aux commissions sectorielles ou encore aux commissions permanentes. Elles ont lieu une fois par mois, exclusivement à Montpellier. 52 élus de toute la région y participent. Et parfois, ils viennent effectivement de très loin, même pour un temps de travail très court, explique l'élu de l'Aveyron, Anne-Sophie Monestier-Charrier.
Les commissions permanentes, généralement, se tiennent sur 2-3 heures. Donc, ceux qui viennent de Tarbes ou du Lot, ils font 8 heures de route pour siéger. Et pour les commissions sectorielles, c'est pareil, puisque les commissions sectorielles sont sur des durées de 1h30. Et parfois, les commissions durent moins qu'1h30. Donc, on fait des déplacements parfois longs pour la durée de la réunion.
Attendez, Cécile, 8 heures de trajet pour 2 heures de travail, c'est pas un peu exagéré, ça, hein ?
Non, c'est une réalité, c'est la conséquence de la réforme. Puisqu'on est plus grand, on augmente les trajets, c'est logique. Mais ça a fait exploser les frais de déplacement des élus. Ils ont coûté 646 000 euros en 2017.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé un truc pour essayer de les faire baisser, ces frais.
On a développé la visioconférence. Coût de l'investissement, 600 000 euros. Aujourd'hui, 36 salles sont équipées sur les sites de Toulouse et Montpellier, alors qu'avant la fusion, il n'y en avait quasiment pas.
Et sauf qu'on ne peut pas tout faire par visioconférence.
Bien sûr. Du coup, chaque jour, des agents de la région font les trajets entre Toulouse et Montpellier pour des réunions de travail. Et comme le train est jugé trop long, pas pratique, un système de navette a été mis en service. 2 véhicules de 8 places qui permettent de voyager groupés, explique l'élu Elisabeth Pouchelon.
Alors il y a une navette donc qui part de Montpellier et une autre qui part de Toulouse pour les agents qui nécessitent de se déplacer tous les matins et tous les soirs, sauf le vendredi. Pour les horaires, c'est 7h-19h.
Ce qui fait quand même des journées de travail finalement assez courtes.
Alors la journée de travail elle-même, oui, est courte. La journée totale est longue, mais la journée de travail est courte puisqu'on a en gros aller-retour 5 heures de route.
En 2017, les navettes ont ainsi parcouru 192 000 km, ce qui représente un coût de 180 000 euros par an, bien que ces navettes ne soient pas encore remplies à 100%.
Oui, ce n'est pas tout, parce qu'il n'y a pas que les agents qui se déplacent, Cécile. Il y a aussi les syndicalistes.
Oui, pour des CHSCT, des comités techniques paritaires, des négociations. Alors là, on a coupé la poire en deux. La plupart de ces réunions se déroulent à mi-chemin entre Toulouse et Montpellier, dans l'Aude précisément, dans des lycées, propriétés de la région, à Lézignan-Corbière, à Narbonne ou à Carcassonne.
Ouais, donc chacun fait un bout de chemin, mais les transports, ils restent quand même beaucoup plus longs qu'avant.
Bah oui, et d'ailleurs pour ça, la région a accordé aux représentants syndicaux du temps supplémentaire. On leur a aussi alloué des véhicules de service qu'ils n'avaient pas auparavant. Diane Guénaud, co-secrétaire du syndicat Sud, le confirme. Depuis la création de la région Occitanie, elle passe énormément de temps sur la route.
On a une explosion des déplacements. J'ai fait une cinquantaine de réunions l'année dernière, et puis encore pas loin du même nombre cette année. Et il nous arrivait aussi d'être pas très contents parce qu'on nous fait déplacer pour une demi-heure de réunion. Voilà, on est épuisé. Enfin, on est épuisé parce qu'on mange de la route en permanence. On fait du covoiturage entre syndicats, etc. Pour la fatigue et puis parce qu'on veut pas monopoliser les véhicules, etc. En tout cas, en l'Aude, on commence à connaître beaucoup. On y passe notre temps.
Ouais, on passe notre temps dans l'Aude. Et ça coûte combien tout ça?
Bah, rien que le péage de l'autoroute, c'est 21 euros aller-retour entre Montpellier et Lézignan-Corbière. Or, selon des chiffres que nous avons pu consulter, en 2016, le nombre de kilomètres pour les agents aurait augmenté de 78% par rapport à 2015. Sans parler, bien sûr, du bilan carbone, qui, lui, n'a pas été quantifié.
Ouais, on justifie ça comment, du côté de l'exécutif?
Eh bien, on trouve ça normal que les agents communiquent entre eux. C'est en tout cas ce que m'a expliqué la présidente de la commission des finances, Claire Fita.
On pense que les déplacements, bien en effet, ça fait partie des contingences. On défend une vision aussi de proximité dans la vie de cette nouvelle région Occitanie. Il y a eu aussi de nombreuses réorganisations, donc on a souhaité que les agents se rencontrent, puissent travailler ensemble pour pouvoir harmoniser leurs pratiques.
Ouais, le positif, c'est dépenses, donc la présidente de la commission des finances. En attendant, c'est si la fusion, elle a aussi fait grimper autre chose. C'est les dépenses de salaire.
Et oui, parce que qui dit fusion dit mise en commun de personnel qui, à compétences égales, n'avaient pas les mêmes primes.
C'est-à-dire que certains gagnaient plus que d'autres.
Oui, il y avait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros de différence selon les cas. Il a donc fallu harmoniser ces primes et on l'a fait par le haut.
Donc on a remonté les salaires des moins payés.
C'est ça. Ça coûte quand même près de 5,5 millions d'euros par an. Alors certes, il y a eu une contrepartie, une augmentation du temps de travail. Mais pour Gérard Onesta, le président du bureau de l'Assemblée du Conseil Régional Occitanie, ça a eu des conséquences.
Au lieu de faire des économies, ben ça a coûté. Rendez-vous compte que le statut des agents Languedoc, ex-Languedoc-Roussillon et ex-Midi-Pyrénées n'était pas les mêmes. Et il n'était pas question d'aligner sur celui qui recevait le moins. Vous imaginez ces cas-là, si en plus on se retrouvait avec une grève totale de tous nos agents, déjà que l'entreprise était difficile, là elle devenait impossible. Donc on a forcément aligné par le haut, et ça a eu un coût. Un coût qu'il a fallu répercuter sur d'autres économies par ailleurs.
Ah oui, selon Gérard Onesta, ces hausses de salaire auraient eu des conséquences sur d'autres postes. Bon, cela dit, on n'a pas fait que les augmenter, ces salaires, Cécile. On aurait également augmenté le nombre de cadres qui sont employés par la région.
Alors, officiellement, on a réduit le nombre de directions, puisqu'avec la réforme territoriale, on est passé de 44 directions à 30. Mais à l'intérieur même de ces directions, il y aurait en fait plus d'encadrants qu'avant la fusion. En tout cas, pour Diane Guénaud du syndicat Sud, on aurait maintenant une véritable armée mexicaine, alors que la fusion était censée supprimer les doublons.
On s'attendait à des déchirures entre directeurs, ce qu'on avait appelé dans toutes nos communications à nous un Games of Thrones, hein, avec ceux qui gagneraient sur les autres et les éliminer. Ça n'a pas du tout été ça, au contraire. En fait, l'ensemble des encadrants ont été recasés. Alors après, faut revoir les choses. Hein. On était en période de préélection présidentielle. Quand même, une des consignes dans beaucoup de régions, notamment les régions de gauche, c'était qu'il n'y ait pas de remous dans la presse sur comment se passent les réorganisations. Enfin, il n'y a pas de violence. Alors on a vu fleurir des directeurs délégués, des directeurs de projet, des directeurs adjoints, des responsables de service, des responsables d'unité, des responsables de service délégués. C'est pas ce à quoi on s'attendait.
Donc on aurait multiplié le nombre de cadres, mais on a des chiffres qui le démontrent, qui le prouvent ça?
Eh bien le problème c'est que non. La présidente Carole Delga m'a assuré que c'était complètement faux, mais sans me donner plus de précision. Quant aux organigrammes très détaillés, ils restent strictement confidentiels, donc difficile d'aller plus loin pour l'instant.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu que la nouvelle région Occitanie dépense beaucoup pour organiser ses sessions plénières, que depuis la fusion, on multiplie les déplacements et les frais qui vont avec, et que la masse salariale, elle aussi, a augmenté. Mais ce qu'on peut encore observer, Cécile, c'est que la réforme, elle a aussi eu des répercussions au-delà de l'administration régionale, puisque des associations en ont subi le contre-coup.
Oui, je vais vous donner un exemple. Il existe dans la région trois associations qui s'occupent de maternité et de toute petite enfance. Elle regroupe des pédiatres ou des orthophonistes qui s'occupent des femmes enceintes et des nouveau-nés. Et bien, comme la région a fusionné, l'Agence régionale de santé leur demande de faire la même chose.
Donc ces trois associations vont devenir une seule et même structure.
Exactement. Elle doit officiellement voir le jour le 1er janvier prochain. Et après tout, pourquoi pas ? Sauf que rien que pour la préparation de cette fusion, il y aura des dizaines de milliers d'euros de surcoûts. Et Aurélien Jacquot, le futur coprésident de cette structure, nous explique pourquoi.
Quand on additionne tout ce qui est frais de déplacement, salle de réunion, heures supplémentaires, on est déjà aux alentours de 20 000 euros. Sur 2018, c'est quelque chose probablement qui va se chiffrer aux alentours de 25 000 euros, uniquement pour préparer la fusion. Donc c'est l'État qui paye la facture.
L'État qui, au final, déboursera près de 45 000 euros juste pour préparer cette fusion. Mais ensuite, il y aura d'autres frais qui viendront s'ajouter.
Il y a aussi tout ce qui est lié, bien sûr, à l'harmonisation sociale, la convention collective, les niveaux de rémunération qui actuellement sont différents à l'est et à l'ouest de la région. Donc si on prend l'option d'harmoniser, de niveler vers le haut, ce qui semble assez logique au départ, eh bien c'est environ 50 000 euros de surcoût, plus une assurance avec environ 10 000 euros de surcoût. Donc tout ça, effectivement, fait une facture probablement qui n'avait pas été complètement anticipée par nos financeurs. Mais c'était décidé, c'était comme ça.
C'était comme ça, et ça a aussi été comme ça pour d'autres associations, et notamment des associations sportives.
Oui, les ligues régionales sportives ont elles aussi été contraintes de fusionner. On a ainsi créé la ligue de rugby d'Occitanie, de tennis d'Occitanie ou encore de handball d'Occitanie.
Et là aussi, il y a eu des surcoûts ?
Oui, par exemple, pour la ligue de handball, 10 000 euros par an en plus pour que tout le monde soit payé de la même manière. 6 à 7 000 euros de frais de déplacement, rien que pour préparer la fusion.
Mais c'est propre à la région Occitanie, ça, Cécile ? Ou est-ce que c'est la même chose ailleurs ?
C'est pareil, c'est partout la même tendance. En fait, seule l'Île-de-France a vu ses charges de fonctionnement baisser, mais il n'y a pas eu de fusion. En revanche, dans toutes les régions qui ont fusionné, les dépenses de fonctionnement ont augmenté. Bon alors, pour être parfaitement transparent, il faut préciser que c'est aussi lié à des compétences supplémentaires qu'on leur a données et à la gestion des fonds européens. Mais très clairement, on observe le même phénomène. D'ailleurs, la Cour des comptes avait été assez sévère dans son premier bilan de la réforme l'année dernière. Écoutez un extrait de ses conclusions.
Contrairement à l'ambition initiale, cette réforme n'a pas simplifié l'architecture institutionnelle locale. Aucun niveau d'administration n'a été supprimé. L'enchevêtrement des compétences des collectivités demeure une réalité. De surcroît, la Cour engage à la vigilance sur les risques de dépenses liés à l'harmonisation par le haut de certains coûts de gestion en cas de regroupement ou de fusion.
Ouais, donc on a bien regroupé les régions, mais on n'a pas fait le boulot de réduction des doublons qui étaient attendus, c'est ça qu'on entend. Hein. Sans parler de décisions parfois discutables qui ont aussi été prises dans certaines régions.
Oui, par exemple les surcoûts liés à des logos. Dans les Hauts-de-France, le nouvel habillage des trains, estampillé Nouvelle Région, a coûté 10 millions d'euros, dit la Cour des comptes. En Auvergne-Rhône-Alpes, on peut aussi s'interroger sur la pertinence de l'hôtel de région flambant neuf, construit à Clermont-Ferrand pour 80 millions d'euros et qui a été inauguré juste après l'annonce de la fusion avec Rhône-Alpes. Du coup, aujourd'hui, une partie des bureaux sont recyclés et loués à des entreprises ou des associations.
Et c'est pas fini, puisqu'à ça, Cécile, faut encore ajouter les indemnités des élus.
Et oui, parce que comme les régions sont plus grandes, ces indemnités ont parfois aussi augmenté. En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, le montant de l'indemnité des conseillers régionaux a augmenté de 380 euros par mois.
Bon, mais quand on entend ça, Cécile, on se dit quand même qu'on marche un peu sur la tête, là. On pouvait pas prévoir ce qui allait se passer.
Eh bien, pour répondre à cette question, il faut se remettre dans le contexte. Rappelez-vous, cette réforme, François Hollande l'a voulu pour faire des régions françaises qui pourraient peser et en même temps faire des économies d'échelle. Mais cette réforme, elle s'est faite dans l'improvisation et la précipitation, se souvient Gérard Onesta, le président du bureau du Conseil régional Occitanie.
quand l'annonce élyséenne est partie annonçant le nombre de régions, ils avaient oublié de fixer le nombre de régions, tellement jusqu'à la dernière minute, c'était à qui gueuler le plus fort au téléphone pour sauver qui sa Bretagne indépendante, qui son pays de Loire qui n'était rattaché à personne. Le Poitou-Charentes a été marié avec le centre pendant la matinée, racoquiné avec le seul Limousin dans l'après-midi pour se retrouver en concubinage notoire avec l'Aquitaine en soirée. Et tout ça, on nous a dit, bien évidemment, ça s'est fait dans la concertation avec les citoyens. Foutaise. Le miracle, c'est qu'on n'a pas déposé le bilan. On aurait été des entreprises, je pense qu'il y aurait eu de la casse.
Ouais, bon, cela dit, Cécile, faut pas être caricatural non plus. Faut quand même préciser que si les régions dépensent plus, c'est aussi parce que elles dépensent ce que l'État ne dépense plus.
C'est vrai, et un exemple l'illustre très bien. En 2018, le Fonds de soutien au développement économique, une enveloppe qui permettait aux régions d'aider les entreprises à se développer, eh bien ce fonds, il va être supprimé. Mais ça vaut aussi dans d'autres domaines. Ainsi, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, m'a expliqué qu'elle doit financer des lignes de chemin de fer, alors qu'elle estime que ce n'est pas du tout de sa compétence.
Nous avons par exemple sur la question du train, l'Aubrac, le train qui part de Béziers vers le Massif Central. Nous avons le train de nuit Paris-Cerbère. Eh bien, ces deux trains, ils sont maintenus parce que la région, elle va donner 3,5 millions d'euros de dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire c'est la région qui va participer. Alors que ça, clairement, c'est une dépense d'État.
Ou une dépense d'État reprise par la région, donc. Maintenant, quand on met ça bout à bout, Cécile, ça fait quand même beaucoup. Cette spirale qui pousse à toujours plus de dépenses, elle va s'arrêter un jour ?
Alors j'ai posé la question à l'association Régions de France. On m'a dit oui, les économies d'échelle vont arriver, mais on nous dit aussi pas tout de suite, à long terme. De son côté, le Conseil économique, social et environnemental doit faire un premier bilan de cette réforme l'année prochaine. Mais une source en interne a déjà accepté de me parler en off. Et elle est plutôt sceptique sur les économies qu'on pourrait voir venir. Écoutez ces propos que nous avons fait lire par une journaliste.
Personnellement, je suis très réservée. Ces fusions génèrent des surcoûts, mais pas de réelles économies. En tout cas, pas pour le moment. On nous promet des économies d'échelle, mais ça reste à prouver. À court terme, s'il devait y avoir des économies sur l'immobilier ou la logistique, ça aurait déjà dû être fait. Enfin, ce qui est très inquiétant depuis la naissance de ces grandes régions, c'est que partout, la proximité s'éloigne, il y a un vrai sentiment de délaissement des populations, et ça interroge.
Et à cela s'ajoutent des rivalités entre les différents sites administratifs, ce qui ne contribue pas du tout à faciliter l'harmonisation des politiques régionales.
Bon, mais alors comment faire, Cécile ? C'est quoi la solution ?
Aujourd'hui, il y a deux pistes qui sont avancées. La première, que personne n'assume encore ouvertement, c'est de faire comme dans la fonction publique, réduire les effectifs en ne remplaçant plus les départs en retraite. Mais Gérard Onesta, le président du bureau de la région Occitanie, lui, en fait une autre. Il suggère de faire une deuxième réforme.
Si économie il y a, c'est dans une remise en cause complète, une remise à plat complète de la République des territoires. Je pose la question, et je ne ferai pas que des copains en la posant, mais est-ce que les conseils départementaux, qui ont vocation essentielle à distribuer les aides sociales, je ne dis pas à les voter, parce que ce n'est pas eux qui fixent le taux des RSA, à distribuer, ont vraiment une vocation à être encore plus de 200 ans après leur création. Pour distribuer des aides sociales, une très bonne administration peut suffire. Donc il y aurait certainement un redéploiement à faire, et là, ah là, pour le coup, on pourrait faire de substantielles économies.
De substantielles économies, mais ça veut dire aussi finalement demander aux départements de faire le boulot que les régions n'ont pas fait.
C'est pas faux, on se refile clairement la patate chaude, mais le constat, il est aujourd'hui cruel. On a créé des régions moins nombreuses, mais qui coûtent plus cher qu'avant et qui n'ont pas acquis la puissance qui pourrait leur permettre de peser dans le concert européen. Si l'on rajoute à ça des décisions clientélistes et une baisse des dotations de l'État, on peut redouter qu'une gestion raisonnable des deniers publics ne soit pas encore à l'ordre du jour.
Bien, merci Cécile Hautefeuille pour cette enquête très éclairante sur les dérives de cette réforme des régions. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter ou la podcaster sur franceinter.fr. Vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires sur le même site, mais aussi sur la page Facebook de la cellule investigation de Radio France ou sur Twitter, Investigation RF. Mais restez avec nous, on va voir qui sont ces jeunes qui ont voulu partir en Syrie ou qui ont voulu commettre des attentats tout en restant en France. On va le voir donc dans quelques instants.
Oh,
une bonne guitare électrique, une bonne réverbe, une saveur des années 70, et ça donne Go, extrait du dernier album du duo américain Les Black Keys.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Mathieu Delahousse, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez La Chambre des Coupables, c'est un récit d'audience de jeunes qui ont tenté de partir en Syrie ou qui en sont revenus et qui se sont retrouvés devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Alors c'est un recueil de tranches de vie, mais c'est aussi en soi une formidable enquête sur cette jeunesse djihadiste qui navigue en fait entre l'horreur la plus extrême et aussi une forme de naïveté. Et c'est peut-être ça qui frappe d'abord dans votre récit, c'est le décalage qu'il y a souvent entre des projets épouvantable. Et puis les propos parfois badins, même puérils de ces prévenus.
Ce qui est très troublant, c'est le décalage entre le papier et ces personnages de chair et d'eau qu'on voit devant nous dans les box. Sur le papier, il y a des écoutes téléphoniques avec une jeune fille qui raconte, par exemple, à l'issue de plusieurs semaines de dialogue avec l'une de ses amies qui a 16 ans. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux faire au casino de Paris quand on va se retrouver vendredi prochain ? Est-ce que tu veux être kamikaze, te faire sauter avec le gilet, ou tu préfères te faire sauter par le RAID ou le GIGN qui va intervenir ?» Et l'autre répond comme si c'était une sortie de lycée. C'est un attentat qui a été déjoué au casino de Paris avec plusieurs milliers de personnes. Les jeunes, sur cette histoire-là, échangeaient en disant qu'ils voulaient faire mieux que le Bataclan. C'était quelques semaines après.
Et effectivement, quand on voit les jeunes gens... C'est le concert de Tony Carrera. Absolument. Alors, c'est grâce à votre livre que je l'ai découvert, hein, je le confesse. Mais ce qui est terrible, c'est qu'elle explique « J'ai vu qu'il y avait 2000 places, que c'était à guichet fermé, donc j'ai pensé qu'il y aurait plus de monde à tuer. »
C'est une stratégie militaire quand on regarde les papiers. C'est une stratégie de destruction massive. C'est ça le terrorisme. Ces jeunes femmes qui sont connectées, mais comme n'importe quel adolescent, elles vont trouver les plans du casino de Paris sur Google. Elles vont trouver les dates du concert sur Internet. Elles vont trouver les plans de la ville également de la même façon. Et elles font une stratégie militaire qui ira pas jusqu'au bout, qui est télécommandée tout de même par un homme qui s'appelle Rachid Kassim, qui est en Syrie et qui est l'un des plus grands djihadistes. Et effectivement, sur le papier, toutes ces histoires-là sont terrifiantes, sont des plans militaires, sont des plans d'attentats qui auraient pu se dérouler. Mais quand on arrive dans le box, on tombe sur une jeune fille qui effectivement est à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, qui est amaigrie, qui ne sait même plus ce qu'elle dit, qui ne comprend pas. Et on comprend très vite, nous, en observateurs, qu'elle est totalement influençable, qu'elle a été influencée par ces jeunes mineurs de 16 ans pour partir au combat, et que là, elle est en train de se faire influencer de la même façon, avec la même candeur, le même engagement et la même naïveté vers une déradicalisation caricaturale qu'on a envie de croire, mais sur laquelle on est obligé de douter.
Et dans cette affaire-là, elle attendait aussi des armes qui devaient venir de Belgique, de Molenbeek. Et ce que vous pointez du doigt aussi, c'est que tous ces gens qui défilent comme ça pendant des semaines, ils sont tous plus ou moins interconnectés.
Ils sont interconnectés par des outils dont on parle à chaque fois dans tous les dossiers terroristes, qui sont Facebook, qui sont les réseaux sociaux, et qui sont cette connexion totalement virtuelle au départ pour des faits réels ensuite. Il y a eu des attentats qui ont été jugés, je pense notamment à l'attentat qui devait viser dans les Pyrénées-Orientales le sémaphore de Cap-Béart. Celui-ci a été jugé aux assises avec un ancien militaire qui avait quitté l'armée, il avait été réformé de la marine nationale pour des raisons de comportement, et qui finalement s'est connecté par les réseaux sociaux avec un garçon qui était à Lille, un autre qui était à un autre endroit, et finalement tous se sont retrouvés. Et finalement, moi, avec les jeunes gens, il y a ce sentiment terrifiant, parce qu'on a l'impression quand même que c'est des crimes contre l'humanité qu'on est en train de juger. On a l'impression que ce sont des crimes pour l'histoire qu'on est en train de juger. Et finalement, il y a une forme d'effectivement de légèreté totale, et c'est le mythique du terrorisme, c'est le site de rencontre du terrorisme.
D'inconscience, quelque part.
D'inconscience, avec des petits messages qu'on s'échange, en mettant en avant le fait que... Ben, quand tu monteras de Bron à côté de Lyon, ce qui est le cas de la jeune femme, quand tu partiras de Toulouse, ce qui est le cas d'un autre, eh ben on se retrouvera effectivement avec les filles de Molenbeek. Ce qui choque beaucoup quand on les voit, c'est qu'ils ont tous le profil soit de petites mains inutiles, soit le profil des grands terroristes qu'on a vu passer à l'action et qui se sont tués soit par les kamikazes, soit par les forces de l'ordre, que ce soit au Bataclan, à Saint-Étienne du Rouvray, à Trèbes, etc. Toute cette liste qu'on connaît.
Et vous dites qu'ils ont aussi un autre point commun, c'est qu'ils détestent, et je vous cite, la France à un point inimaginable.
Dans toutes ces structures. Et souvent, cette détestation de la France, chez les jeunes djihadistes, elle s'exprime sur tous les étages. C'est-à-dire qu'elle s'exprime évidemment sur les militaires. Il y a une jeune fille qui est dans le box un jour et qui se tourne vers le gendarme qui garde le box. Et elle dit, voyez, je suis déradicalisée. Mais il y a deux mois, L'homme qui est à côté de moi, j'aurais voulu l'étrangler. Pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente, pour l'uniforme qu'il a. Mais il déteste de la même façon l'école. Il rejette évidemment la presse, mais c'est pas les seuls. Et il rejette le système social avec un cynisme absolu qui fait qu'on garde les allocations pour partir au djihad, mais qu'on prend quand même ces allocations. Et évidemment, il déteste la justice, puisque certains, c'est pas le cas forcément des petits poissons, mais des plus radicalisés, finissent par le dire les yeux dans les yeux à une assesseuse, et c'est une scène, moi, qui m'a vraiment glacé, de dire, vous savez, votre justice, faites ce que vous voulez, hein. Mais la charia, c'est mieux.
C'est pas la justice
la
de
loi
Dieu.
Islamique, c'est ouais, mieux.
On se fiche de la justice des hommes.
Et quand la justice veut réconcilier, ouais, c'est un fossé qui se crée.
Oui, alors vous évoquiez la déradicalisation de la jeune femme dont vous parliez il y a un instant, mais la question centrale c'est ça, c'est quelle sincérité on peut accorder à cette déradicalisation à travers les affaires que vous citez. Il y a des cas, notamment cet ancien cuisinier qui est une espèce de détenu modèle, et puis dont on se rend compte que 6 mois plus tard, il va tenter de tuer son surveillant en prison.
On voulait lui faire confiance dans son premier procès, il a essayé de partir en Syrie, il a eu un accident de voiture, il est revenu, il est parti avec sa femme et son très jeune enfant. Et effectivement, les magistrats qui l'ont vu se sont dit qu'il était peut-être dans ce qu'on appelle le bas du spectre. Et cet homme, ensuite, a été incarcéré et il a eu une radicalisation encore plus forte qui fait qu'il a commis le premier attentat en prison, qu'il est aujourd'hui renvoyé aux assises pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique et qu'effectivement, il tient un discours, celui-là, de djihad politique. C'est-à-dire que...
Complètement à l'opposé de celui qui tenait il y a quelques mois.
Complètement à l'opposé en disant, finalement, c'est un jeune homme qui travaillait chez Tout Mieux, qui avait travaillé également chez Maxim's, rue Royale à Paris, et qui a décidé de quitter son emploi parce qu'il ne voulait plus servir d'alcool aux mécréants. Signe de radicalisation, évident.
Et manipuler de porc non plus.
Absolument, plus toucher cette viande-là. Et ensuite, quand il passe devant la justice, il pleure, il parle de ses frères qui sont morts en Syrie. Il y a une indulgence naturelle qui se crée. Et en revanche, effectivement, celui-là, aujourd'hui, souligne que le djihadisme, ce n'est pas que les attentats. Il dit qu'il y aura d'autres frères qui passeront à l'action, et lui, il veut la guerre totale. Et effectivement, son discours, il vient briser de façon terrifiante, toutes les tentatives qu'on peut avoir de déradicalisation.
Vous écrivez « Le terrorisme est une matière qui rend fou ». Vous êtes devenu fou ?
Je pense que c'est une matière qui rend fou beaucoup de monde. Marc Trévidic parlait du virus du terrorisme. Les juges que j'ai rencontrés dans ce livre, certains quittent leur poste actuellement pour en faire d'autres et avouent leur soulagement. Et moi, j'ai eu une forme de trouble parce que j'ai des idéaux de justice assez chevillés au corps. Et effectivement, le fait de se retrouver dans cette chambre, tout est bousculé. Et parfois, j'ai fait l'évolution du livre sur cette façon-là. C'est-à-dire que j'ai commencé par les flots de haine qui m'ont envahi, notamment quand je voyais des jeunes gens arriver qui ressemblaient trait pour trait à aux kamikazes du Bataclan. Et c'est très troublant d'avoir cette correspondance
De plus savoir qui on est. Et d'avoir des sentiments qui correspondent pas à ceux qu'on voudrait avoir.
Voilà, et d'avoir des flots de haine. Et par ailleurs, quand on a comme modèle Joseph Kessel, par exemple, qui pour le procès de Nuremberg avait écrit les jugements derniers, c'est une place dans l'histoire que nous, journalistes, on n'arrive pas à avoir, parce qu'on n'est pas dans des jugements derniers. L'histoire du terrorisme, elle est en cours, on est face à cette machine à laver, en quelque sorte, qui nous broie, qui nous trouble. Et c'est vrai que la tentation, à un moment, c'est de se dire que ce sont des gens sans intérêt, que ce sont des coupables forcément coupables, et de ne pas faire œuvre de justice et de ne pas raconter la justice. La folie, en tout cas, était de se rendre compte que ce que j'écrivais il y a 10 ans ou ce que je racontais il y a 10 ans sur le terrorisme était évidemment démenti par un certain nombre de faits, et c'est assez douloureux pour un journaliste.
Merci Mathieu Delahousse. Merci. Je précise que votre livre, donc La Chambre des Coupables, est édité chez Fayard. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et la technique était assurée par Maxime Ingrand et Théo Gomard. Dans quelques instants, regardez voir avec Brigitte Patient. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à dimanche prochain.